Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi, Marianne Paquette, pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M et on se donne la chance de parler en deuxième partie d'émission avec Danny Prudhomme, lui directeur général du réseau FADOC, qui sera là pour nous parler de cette campagne « Le bouton argenté » lancée en début du mois pour une deuxième édition qui vise à faire la promotion d'une qualité de vie adéquate des aînés québécois. En plus, et ça c'est assez important, de susciter une réflexion pour qu'il y ait des solutions durables qui émerge de la réflexion qu'on pourra avoir et aussi de placer cet enjeu, c'est-à-dire un vieillissement en sécurité, un vieillissement en santé où les gens peuvent s'impliquer dans la société, donc d'en faire un enjeu important qui concerne tout le monde. Danny Prudhomme sera là tout à l'heure. Et puis, je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis quelques années, Internet est devenu un média qui est quasi incontournable et qui est très, très présent dans notre quotidien, que ce soit parce que l'on l'utilise à la maison ou au travail. Au Québec, il y aurait une personne sur deux qui l'utiliserait tous les jours. Et pour des questions qui seraient davantage, oui, liées à la santé, 8 Québécois sur 10 affirment consulter Internet en premier lieu. À travers les forums ou encore les forums de discussion, les médias sociaux, on utilise Internet pour partager notre vécu, nos expériences, nos problèmes aussi, hein, nos soucis de santé et aussi des pistes de solutions. Mais malgré le fait qu'Internet soit, comme je le disais tout à l'heure, quasi incontournable et même devenu une ressource en matière de santé, est-ce que l'on connaît sa véritable influence et tous les impacts de cette influence-là? J'en parle à l'instant avec Christophe F. Hébert, lui candidat au doctorat en psychiatrie à l'Université McGill, psychologue clinicien et il est spécialisé dans les diverses applications de l'Internet en santé mentale. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être là.
C'est un plaisir.
J'ai l'impression, Christophe, vous savez, lorsqu'on est au théâtre, on a déjà entendu « Y a-t-il un médecin dans la salle quand quelqu'un a un souci de santé, que ce soit en coulisses ou dans la salle? » J'ai l'impression que maintenant, on utilise les médias sociaux un peu à cette saveur-là. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà vu sur Facebook, par exemple, des gens dire « Oh, j'ai tel problème de santé. Est-ce qu'il y a un médecin, un spécialiste de la santé dans mes amis qui peut me répondre? » C'est une façon d'utiliser les médias sociaux pour obtenir des informations en matière de santé.
Complètement, de plus en plus d'ailleurs. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant quasiment tout le monde Google ses symptômes. Et au Canada, il faut quand même savoir qu'on est l'un des pays les plus connectés au monde. Mm-hmm. Donc c'est quand même important. Et donc, ce qu'on fait pour les courses, pour le théâtre ou n'importe quoi, en fait, on le fait pour la santé aussi. Et effectivement, donc on va facilement googler ses symptômes ou les symptômes de son enfant ou d'un de ses proches. Et on peut tomber sur des bonnes choses comme des mauvaises choses. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de police de l'Internet, il n'y a pas de médecin de l'Internet. Donc on peut tomber sur des choses excellentes comme des choses tout à fait déplorables. Donc, et c'est difficile de voir comment en fait reconnaître une bonne information d'une mauvaise information, par exemple. Et c'est intéressant de voir qu'il y avait une étude l'an dernier qui montait, une étude américaine, que 61% des internautes américains avaient été chercher de l'information l'an dernier en fait sur Internet, et qu'il y avait quand même 39% d'entre eux qui cherchaient de l'information en santé sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux.
Mm-hmm. Donc de chercher à en connaître davantage sur sa santé, parfois même pas avec un spécialiste de la santé, mais un père, un partenaire finalement, quelqu'un qui vit la même chose que nous et qui peut nous partager son expérience.
Tout à fait, et c'est ce qui est recherché de plus en plus, parce que sur les sites institutionnels, on va dire, souvent c'est difficile à comprendre, c'est un petit peu long, ça ne nous parle pas forcément. Alors que si on va chercher directement auprès des gens qui vivent la même chose que nous, ça permet par exemple de trouver du soutien parfois. Je pense notamment à des exemples comme des troubles anxieux, où on sait que, par exemple, dans la dépression, quelqu'un qui souffre de dépression, qui a un proche qui souffre de dépression. Il y a plus de 500 groupes de discussion sur Facebook qui en parlent. Et en ce moment, il y a 185 000 personnes qui parlent de ça sur Facebook, dans des groupes de discussion. Mmh. Alors, ça permet effectivement pour les gens d'échanger avec d'autres personnes, mais aussi pour les familles de mieux comprendre éventuellement les symptômes ou de se soutenir, parce que c'est difficile pour les aidants aussi.
Oui, c'est peut-être moins intimidant de parler à quelqu'un qui est passé par les mêmes expériences que nous que de parler avec un psychiatre, par exemple.
Complètement. Et déjà, ce n'est pas évident de trouver un psychiatre, hein, vous le savez. ça, c'est un autre problème. Mais aussi, il y a souvent la peur du stigma. Et ce n'est pas évident de parler d'un trouble de santé mentale ou même d'un problème de santé. Et souvent, les gens, y a un petit peu une honte ou ils ont besoin de savoir de quoi ils souffrent. Et avant d'en parler à un médecin ou à un psychologue, par exemple, ils vont d'abord regarder sur Internet est-ce que oui ou non, ils souffrent de ce trouble.
Mm-hmm. Donc, plusieurs avantages, on peut l'entendre. Et en même temps, on a souligné quelque chose d'important, une façon de rendre plus accessible les soins de santé. Parce qu'on le sait, et notamment en santé mentale, c'est un véritable enjeu.
Complètement. De toute façon, on voit que plus dans un pays c'est difficile d'accéder aux services de santé et plus l'Internet est utilisé en fait dans les pays occidentaux. Et alors donc une fois de plus, des fois ça apporte quelque chose de vraiment bien parce qu'on sait qu'une bonne information c'est de la santé publique en fait. Mm-hmm. Et une bonne information peut baisser le niveau d'anxiété de la personne. Il vaut mieux savoir de quoi on souffre, même si ça peut être difficile, que de l'ignorer, de fantasmer et d'avoir davantage peur. Et ça amène aussi les gens à davantage consulter. Mmh. Donc ça, parfois, on peut même aller rejoindre des gens qui n'auraient jamais consulté. Donc en ça, ça peut être une bonne chose. Mais une fois de plus, le problème, c'est la bonne information, la mauvaise information. Il y avait une étude il y a quelques années sur les troubles anxieux, là encore, qui montrait qu'il y avait quand même 42% des informations sur les troubles anxieux qui étaient inexacte, voire dangereuse dans 6% des cas. Oui. Donc, c'est là que c'est pas évident. En
fait. Oui, parce que maintenant, un enfant de 2 ans peut naviguer sur un iPad de façon très, très aisée. Mais en même temps, est-ce que les citoyens sont vraiment habilités à décortiquer la bonne information en matière de santé de celle qui est plus erronée?
Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une éducation qui a à faire, voire même, pourquoi pas, un jour penser à l'éduquer à l'école.
Ouais. Mmh.
Parce que, justement, on ne sait pas vraiment... C'est un peu le Far West, hein, on ne sait pas exactement quelle est la bonne information de la mauvaise. Et on voit, il y avait une étude qui était intéressante, qui montrait qu'il y avait 58% des Américains qui avaient lu une information en santé qui ont été influencés par ce qu'ils ont lu.
Ah donc, oui, okay.
Si vous vous rappelez des 42% qui étaient de la mauvaise information, on voit qu'il y a quand même une grande influence de ce qu'on lit sur Internet.
Et peut-être notamment pour des personnes un petit peu plus fragilisées, je pense par exemple à des adolescents. Je lisais récemment que des adolescents qui vivent des phases dépressives et qui lisent sur le suicide auraient plus tendance à passer à l'acte.
Oui, alors en fait, là, effectivement, les adolescents consultent davantage, mais maintenant, c'est un peu tout le monde quand même.
Oui,
hein, parce que
oui.
Ça, c'était vrai il y a quelques années où on pouvait dire que l'Internet, c'était surtout quelque chose pour les adolescents ou les jeunes, mais c'est plus vraiment vrai maintenant. Puis on le voit d'ailleurs avec la courbe des âges hein, qui est dans les médias sociaux, comme sur Facebook, etc. Donc maintenant, c'est un peu tout le monde quand même qui consulte pour la santé, etc., qui est sur les médias sociaux également. Et puis, il ne faut pas oublier que nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont vraiment extrêmement doués avec l'Internet, ouais. Hein, vous le savez, ils vont vieillir. Et puis, demain, ils vont continuer à garder ces réflexes-là, etc.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a des groupes auxquels il faut faire attention, parce que je pense aux adolescents notamment, où il y a des groupes de discussion ou des sites web qui sont pro-ANA, par exemple, et donc qui vont encourager l'anorexie ou pro-suicide et qui vont encourager le suicide.
Donc, en ce sens-là, c'est aussi le rôle du parent à ce moment-là de surveiller la consommation sur le web de son ado. Maintenant, vous disiez quelque chose de très intéressant, Christophe, à savoir certaines personnes vont être amenées à consulter davantage grâce aux médias sociaux, grâce au web, aux forums de discussion, des gens qui n'auraient peut-être pas consulté auparavant. Donc, le web peut servir à changer des comportements en matière de santé.
Complètement. Et on le voit de plus en plus. Donc, déjà, on voit qu'il y a au Canada, écoutez, je crois qu'il y a 92,5% des personnes qui sont connectées. Donc,
oui.
on va pas, voilà. Et pour la santé publique, c'est un outil formidable parce que ça permet de rejoindre 92,5% de la population pour un faible coût. Mmh. Donc les campagnes de santé publique, bien entendu, il faut les continuer sur les autres médias, mais ce serait dommage de s'en priver. Et comme les gens, on sait qu'ils googlent leurs symptômes, il faut encourager les institutions de santé à être présents et à faire des campagnes de prévention, par exemple. Et effectivement, ça peut, je pense, il y a plusieurs maintenant défis qu'on voit de plus en plus pour manger des fruits et légumes, pour courir ou des choses comme ça. Et c'est une très bonne chose.
Oui, la cessation du tabac aussi, on a pu le voir, ou encore l'alcool au volant. C'était des façons de sensibiliser les gens. On a parlé des risques ensemble, Christophe, entre autres choses, les informations erronées, de faire attention, d'être plus vigilant. Il y a aussi la confidentialité. Est-ce qu'il pourrait y avoir des risques de divulguer des informations, que ce soit à un employeur, que ce soit pour nos assureurs, ou même, bon, de se fragiliser davantage par la divulgation de ces informations-là?
Bon, alors, là, ce que je veux dire, ça peut être terrible, mais il n'y a pas de risque de divulgation. C'est déjà divulgué. C'est-à-dire que, malheureusement, les gens ne font souvent pas assez attention aux informations qu'ils laissent sur Internet. Et Internet ne connaît pas l'oubli. Donc, on peut très rapidement récupérer plein d'informations sur une personne si on va chercher des informations sur Facebook, des informations sur Flickr, des informations sur les photos, etc. Et en fait, on laisse des petites traces un petit peu partout sur l'Internet. Et si on regroupe toutes ces traces-là, on arrive à tout un portrait d'une personne. Il y avait notamment un article il y a quelques années dans un journal français qui avait fait un profil Facebook d'une personne, un profil Google, pardon, d'une personne prise au hasard. Et c'était complètement terrifiant parce qu'ils avaient accès à tout, voire même à ses préférences. Alors, à ses préférences, c'était un homme de blonde. Parce parce qu'il y avait toutes les photos, en fait, de cette personne-là, de vacances, etc., au travers des années. Puis on voyait que c'était toujours à peu près le même type de personne qu'il aimait. Mais effectivement, le problème, c'est que si on parle, par exemple, sur Facebook, dans un groupe de discussion, ce qui peut être aidant, hein, mais on signe de son nom.
Oui.
Donc, d'un seul coup, en fait, on dit à la Terre entière, parce que ce sont des données publiques. Donc, tout le monde peut regarder ça. Et on dit à la Terre entière, par exemple, qu'on est en train de souffrir d'un problème d'alcoolisme, etc. Donc, il faut faire très attention aux données personnelles sur Internet.
Est-ce que vous proposez d'utiliser un pseudonyme sur les forums de discussion?
Oui, complètement. Complètement. Donc là, utiliser un pseudonyme, ça me paraît parfait parce que ça permet de garantir un anonymat. Parce que si on signe directement de son nom, à ce moment-là, ça peut être une porte ouverte pour des gens mal intentionnés, par exemple, hein, des sectes ou des choses comme ça.
Mm-hmm. Maintenant, il est important de rappeler que vous êtes spécialisé, notamment dans les diverses applications de l'Internet en santé mentale. Est-ce que les gens qui vivent avec une maladie mentale sont plus fragilisés sur le web? Est-ce que pour eux, les répercussions de l'utiliser sont plus grandes?
Ben, oui, dans le sens où... Forcément, quand on souffre d'un trouble de santé mentale, on est déjà plus anxieux et plus vulnérable. Donc, on va faire moins attention, par exemple, ou l'information qu'on va lire va avoir plus de portée émotionnelle. Donc, en ça, oui. Donc, une fois de plus, ça peut aider, parce qu'il ne faut pas non plus diaboliser le web, hein. Ça peut aider, mais ça peut avoir des fortes répercussions aussi pour les personnes.
Mm-hmm. Est-ce que vous aiguillez, vous êtes psychologue clinicien, donc vous rencontrez ces gens-là, est-ce que vous aiguillez vos patients à mieux utiliser le web pour s'informer?
Mais ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'au travers des années, et donc ça, on parle à ce moment-là de, pour les médecins, on va parler de médecine participative, par exemple, pour les psychologues, de psychologie participative, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça. Mais en tout cas, le web est de plus en plus présent dans les consultations. Mmh. Et c'est intéressant de voir que les gens, souvent, ont déjà googlé leurs symptômes, voire vous ont googlé.
Oui.
Donc, et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Et à ce moment, ils arrivent avec un savoir qui peut être excellent, et qui peut être mauvais. Et c'est important, en tout cas, en tant que professionnel de santé, d'interroger le patient sur qu'est-ce qu'il connaît exactement de son trouble, qu'est-ce qu'il a vu, et puis de lui conseiller aussi des sites web qui pourraient être intéressants pour en savoir plus.
Oui. Oui, j'imagine que l'apparition du web depuis maintenant quelques années change la relation patient, patient-médecin ou patient-soignant.
Complètement. On n'est plus seul détenteur du savoir, on va dire, et, et parfois le patient peut même en savoir plus que le professionnel de santé. Je pense par exemple à un trouble particulier, puis la personne va voir son médecin de famille, Et les médecins de famille, bah, ils sont pas experts en tout, et c'est bien normal. Et la personne, peut-être qu'elle a lu énormément de choses là-dessus et peut avoir des informations tout à fait pertinentes. Donc il faut pas rejeter du tout ce que c'est le patient. Oui. Peut-être que c'est l'information qui est très très bonne, mais c'est important pour le professionnel d'aller vraiment chercher, de voir un petit peu ce que la personne a comme information, parce que c'est à peu près certain qu'elle a lu des choses sur Internet. Mmh. Et souvent sur Internet, alors là je dirais aux gens de se méfier en tout cas des forums, etc. Parce que souvent on va sur les forums pour googler, même si moi je dis qu'il ne faut pas le faire, je le fais aussi, hein. c'est-à-dire googler les symptômes de son enfant ou je ne sais pas quoi. Et puis on tombe souvent sur les histoires les pires. Oui. Et les pires, et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des histoires qui ne se terminent jamais. Tout simplement parce que la personne, une fois qu'elle a été voir son médecin, elle a été rassurée, mais elle n'est pas retournée sur le blog pour dire, ou sur le forum pour dire « Non, non, en fait, tout va bien, c'était rien du tout, c'était pas un cancer du tout. » Mais elle n'y est pas retournée. Elle est juste restée sur « Mon Dieu, je crois que c'est un cancer. » Donc vous lisez ça et vous dites « Oh, mon Dieu, c'est possible que ce soit un cancer. » Mais en fait, pas du tout. Donc ça, c'est important quand même de garder ça à l'esprit. Ça se termine rarement, les histoires.
Oui, 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 tout à fait. Et bon, il y a toujours le risque de finalement pas avoir l'information pertinente. Et c'est important ce que vous dites, Christophe Hébert, de revenir en tant que professionnel de la santé sur les connaissances du patient, de refaire une espèce de visite du web et de pouvoir conseiller. Quelles sont les habitudes des gens qui vivent avec un souci en santé mentale sur le web? Est-ce qu'ils vont sur les forums, sur les médias sociaux pour se rassurer ou encore c'est pour chercher de l'information? Quelles sont leurs habitudes?
Il y a différentes habitudes en fait. Tout d'abord, la première des choses, c'est de chercher de l'information sur ses symptômes. Par exemple, une personne qui va avoir un accident d'auto et qui va commencer à avoir des cauchemars, etc., elle ne sait pas forcément que... Bah oui, c'est attendu, enfin, on connaît, c'est un trouble de stress post-traumatique. Peut-être qu'elle va se dire « Ah, oh, je suis en train de devenir fou » et qu'elle va avoir honte de ça. Alors que si elle regarde sur Internet, elle va reconnaître ses symptômes et elle va dire « Ah ben non, ça existe, c'est pas anormal, c'est la situation qui est anormale, mais les symptômes ne le sont pas et c'est connu et ça se soigne. » Donc vous voyez, c'est en ça que ça va réduire l'anxiété. Après, ils vont peut-être vouloir échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des accidents d'auto. Ou pour les familles aussi, où c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des troubles d'irritabilité, etc. Donc, besoin d'échanger. Puis alors là, ils vont plutôt aller sur des groupes de discussion. Donc ce sera...
Ça dépend des besoins.
Tout à fait.
Oui. Et je vous écoute, Christophe, et je me dis, en matière de santé et de web, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, il y a une grande zone de gris. Il y a quand même une responsabilité des professionnels de la santé, des organismes, des organisations de mieux éduquer le citoyen en matière de recherche sur le web, recherche et santé. Comment on peut commencer à le faire?
Il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose pour les professionnels de santé, ce serait d'être présent sur le web. Et on est très, très peu présent.
Ouais.
Donc, d'ailleurs, il suffit d'aller, vous pouvez aller tout de suite sur Facebook, taper n'importe quelle psychopathologie, et puis vous allez trouver tout de suite au moins 500 groupes de discussion, et vous allez voir qu'il y a une absence quasi totale des professionnels de santé. Et ça, dans tous les domaines. Hein. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc il faudrait davantage qu'on soit présent sur le web. Et ensuite, il faudrait qu'on en parle à nos patients, qu'on n'hésite pas à parler avec le patient du fait que, oui, il a déjà un savoir, c'est à peu près certain qu'il a déjà un savoir, en fait, qu'il a lu sur le web.
Et des bonnes ressources, bien sûr.
Et des bonnes ressources. Et en ça, il y a quelque chose qui commence, ça existe depuis une dizaine d'années à peu près, mais j'espère que ça va se développer de plus en plus. Il y a, par exemple, des initiatives comme le Hone Code, et c'est Health on the Net, et en fait, c'est un organisme international, mais qui est basé en Suisse, et qui note les sites web en santé. Et il faut qu'on corresponde en fait à un certain nombre de critères pour pouvoir bénéficier d'un logo, c'est gratuit, d'un logo on code.
Comme une certification.
C'est une certification qui est valable 2 ans. Et en fait, c'est totalement gratuit. Et il vérifie, par exemple, si on donne de la bonne information en santé. Est-ce qu'on la référence? Est-ce qu'on dit d'où vient notre information? Est-ce qu'on encourage après les gens qui vont sur notre site à aller voir quelqu'un dans la vraie vie? Des choses comme ça.
Eh ben ouais, ça serait une très, très bonne ressource ici, en effet. Alors, et vous le ferez, vous aussi, à votre façon, lors d'un séminaire qui est offert demain, 20 octobre, de 12h30 à 13h45. C'est sur la rue Sherbrooke, à l'INRC, c'est bien ça?
INRS.
INRS, oui, voilà. Et puis, ça s'intitule « S'informer et se confier sur Facebook au sujet de son trouble de santé mentale, de l'influence des médias sociaux en santé. » Vous serez là pour en parler. C'est ouvert au public et,
C'est gratuit,
il faut quand même s'inscrire. Alors, On guidera les gens sur notre site à le faire, bien sûr. Je rappelle Christophe F. Hébert, vous êtes candidat au doctorat en psychiatrie à l'Université McGill, psychologue clinicien, oui, et notamment spécialisé dans les diverses applications de l'Internet en santé mentale. Merci beaucoup de votre passage en studio.
Je vous remercie de votre invitation. Bon après-midi.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Denis Prudhomme, bonjour.
Bonjour à vous.
Un plaisir de vous reparler, ça faisait un petit bout.
Oui, tout à fait, pareillement.
Vous êtes directeur général du réseau FADOC, je le rappelle, et là pour nous parler de cette campagne Le Bouton Argenté, la deuxième édition, qui vise à faire la promotion d'une qualité de vie adéquate pour les aînés québécois. En premier lieu, Dani, il y a une personne sur trois au Québec qui est âgée de 50 ans et plus. Donc, le vieillissement ici, on connaît ça, mais est-ce qu'on est véritablement des leaders en matière de saine façon de concevoir le vieillissement?
Ben, malheureusement, ma réponse va être non. Malgré le fait qu'on voit un réseau d'entraide qui diminue, donc moins en moins d'enfants, ensuite une tendance à l'appauvrissement avec toutes les différentes choses qu'on voit dans les dernières années, il y a des enjeux multiples face au vieillissement qui sont pris en silo. On va attaquer l'équilibre budgétaire, on va même accentuer, malheureusement, dans certains cas, le clivage intergénérationnel. Donc, sur le dos de l'un et de l'autre, on va essayer de faire du chemin pour rétablir au nom du budget un équilibre. Et ça, malheureusement, on n'est pas leader quand on fait ça.
Mm-hmm. Le bouton argenté, bon, on se l'imagine bien, quatre trous à un bouton. Et ces quatre trous-là représentent quatre piliers importants de cette campagne-là.
Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on dit pour une qualité de vie adéquate de nos aînés d'aujourd'hui et de demain, bien entendu, ça passe par quatre choses principales. La santé, le bien-être, la sécurité et l'appartenance.
Mm-hmm. Et ça fait partie d'un contrat social, je pense, que vous avez mis de l'avant en 2013 du côté de la FADOC, Dani Prudhomme.
Oui, tout à fait. On a mis ça de l'avant en 2013 parce qu'on voulait effectivement sensibiliser les gens au vieillissement, aux impacts que ça a si on n'est pas un leader et on ne prend pas les devants pour planifier ce qui s'en vient. Et forcément, face à ces quatre piliers, d'essayer d'évaluer comment on fait les choses aujourd'hui qui, malheureusement, on voit, on les fait très mal.
Et si je comprends bien, ces quatre piliers qui sont, je le rappelle, la santé, la sécurité, le bien-être et l'appartenance, ce sont des fondements d'un vieillissement qui se fait d'une façon saine, d'une façon appropriée et adéquate pour nos aînés ici.
Oui, tout à fait. En fait, c'est quelques exemples rapides. Si on parle de santé, en fait, c'est d'avoir un accès à des éventails de soins spécialisés autant que généraux, courtes, longue durée, à domicile, en institution. Ça peut aussi dire d'allouer les ressources aux bons endroits pour soutenir, par exemple, les proches aidants à qui on en demande de plus en plus. Sécurité, ben, c'est simplement, on voit beaucoup de cas d'abus, de fraude. Donc, les personnes vulnérables sont souvent intimidées ou maltraitées. Donc, on voit qu'on a beaucoup à faire. Bien-être, ben là, on touche vraiment à tout ce qui est à la base. Se loger, se nourrir, s'habiller, s'amuser et se divertir pour être capable d'être positivement face à la vie et au vieillissement. Et en dernier, ben, l'appartenance, en fait, c'est de s'assurer qu'on donne à quelqu'un une participation active et le droit d'être un citoyen à part entière tout au long de sa vie.
Est-ce que le gouvernement vous appuie dans ces démarches-là?
Ben, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on a lancé en 2013, les quatre partis de l'Assemblée nationale ont signé le contrat social. On pourrait dire que c'est symbolique, malgré que pour nous, chaque fois qu'on a des projets de loi, chaque fois qu'on va en commission, chaque fois qu'on a interagi avec le gouvernement, on utilise cette base-là pour dire, écoutez, face à une qualité de vie adéquate, voici ce qui manque dans les projets de loi vous déposés ou voici ce qui manque dans les règlements les modifications concernées. Et c'est sûr que ça nous donne quand même un bout du bâton intéressant pour analyser une situation. Et ça nous permet aussi de revenir en disant, vous avez toujours pas mis en place une politique du vieillissement national.
Oui. Et il y a plusieurs façons de valoriser la personne aînée. Danny Prudhomme, demain, je ferai une émission avec une psychologue sur le rôle des grands-parents. On soupçonne très peu à quel point ils ont un apport important, les grands-parents. Les personnes aînées, c'est important de rappeler leur rapport important à notre société.
Tout à fait. En fait, ben, vous avez mentionné grands-parents, donc ça, c'est le lien familial, donc, et à peu près ce qui est le plus important dans notre société. Puis je pense qu'on en perd graduellement, malheureusement, cette valeur-là avec notre société qui se veut performante. On a le bénévole. En tant que tel, notre réseau FADOC, il y a 15 000 bénévoles. Et on n'est seulement qu'une cinquantaine d'employés à travers toute la province. Donc, c'est sûr, si on n'avait pas nos bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. J'ai mentionné les proches aidants tout à l'heure.
Oui.
Donc, vous avez de plus en plus, malheureusement, nos proches aidants, on leur demande de plus en plus, on les appuie et leur donne de moins en moins au niveau du gouvernement. Et ces gens-là, à leur tour, deviennent les aider parce que ce soit mentalement, physiquement ou financièrement, ils sont plus capables une fois qu'ils ont passé à travers cette étape-là. Donc, on voit qu'on a beaucoup de chemin à faire. Là.
On a beaucoup de chemin à faire et on pourra bien sûr bientôt souligner le rapport là, lors de la Semaine nationale des proches aidants. Danny Prudhomme, en terminant, le bouton argenté, comment on peut se le procurer?
On peut tout simplement aller sur notre site Internet au www.fadoc.ca, faire la commande en ligne et on peut aller dans chacun de nos bureaux régionaux au besoin, aussi aller chercher si on est tout prêt.
C'est 2 $ seulement. Et vous invitez les gens, les citoyens, à le porter tout au long de l'année, Danny Prudhomme?
Ben, écoutez, je pense que oui, on peut toujours, lorsqu'on a une cause à cœur, le porter tout au long de l'année. Mais je pense qu'il est important, avec le 1er octobre, qui est la journée internationale décrétée pour les personnes âgées par l'ONU, nous, on en fait le mois d'octobre, si on veut, le mois où on sensibilise à une qualité de vie. Mais effectivement, vous avez raison, c'est tout au long de l'année qu'il faut le faire.
Tout au long de l'année, et ça touche toutes les personnes qui vivent au sein de notre société, là, des enfants aux personnes plus âgées, des gens qui travaillent dans toutes les sphères aussi de notre société.
Tout à fait, parce qu'on sera tous demain des aînés.
Voilà. Danny Prudhomme, je le rappelle, vous êtes directeur général du réseau FADOC. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Demain, on vous invite à écouter l'émission « C'est bon pour la santé ». On sera là à 14h et on vous parlera de l'apport des personnes aînées, oui, et des grands-parents surtout, avec la psychologue Nathalie Parent. Et on vous parle aussi avec une nutritionniste, Marie Charon, à savoir quel est l'impact de notre alimentation sur notre humeur. Parce que oui, ça pourrait jouer. Qu'est-ce qu'on mange a une influence sur qu'est-ce que l'on ressent. Alors, ce sera un rendez-vous. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!